Passion Montagne sur France Bleu.
Jean-Michel Asselin.
Christophe Garnier.
Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver pour cette semaine encore passée toute une heure dans la pente. Comment cette saison, les pentes commencent à être un peu enneigées, eh bien nous passerons cette heure sur les skis. Mais attention, des vieux skis en bois, ces skis qui n'en finissaient pas d'être longs, ceux-là même qu'aujourd'hui, on accroche sur les murs. Mais ce sont aussi ces skis qui ont permis à Alfred Coutet de devenir champion de France, 1909, 1913, 1914, et notre invité est son petit-fils, Bruno Coutet, qui vient de rééditer le petit manuel pratique de ski de son grand-père. Et puis cette saison, nous irons choisir le sapin avec Alain Salomon. Dans son reportage, il nous emmène chez Pascal Coimbelet, producteur de sapins naturels dans le Vercors. Il y aura aussi vos questions à Jean-Michel. L'occasion de décrypter l'étiquette d'une bouteille de chartreuse, la revue de presse, un œil sur les programmes télé et les actus montagne à ne pas rater cette semaine.
Avec Passion Montagne sur France Bleu.
Vous êtes au grand air.
Jean-Michel Asselin, bonjour.
Bonjour, cher ami, bonjour. Et bonjour à tous.
Bruno Coutet, bienvenue.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs, auditrices.
Et donc, petit-fils d'eux, disais-je.
Petit-fils de mon grand-père, oui.
Bon, alors, je l'ai appelé Alfred Coutet, mais communément, enfin, très vite, on l'a appelé Coutet champion.
Eh ben oui, quand vous avez un champion de France, alors à l'époque, il n'y avait pas d'autres titres, hein, on n'était pas encore dans des compétitions internationales, donc c'était le titre suprême, champion de France, en 1909 à 20 ans. Forcément, toute la vallée de Chamonix était fière de son champion. Et le surnom qui était sur toutes les lèvres, fatalement, c'était champion. Donc, Coutet champion.
Et alors, vous êtes venu là avec un petit document des années 20, qui est l'édition originale du petit manuel pratique de ski.
Voilà, c'était pour que vous puissiez la voir vraiment. Alors, je fais juste un petit rectificatif, c'est 1932. Et c'est un petit bouquin qui fait même pas un demi à cinq. C'était pour que les skieurs puissent l'emmener dans la poche sur les pentes de ski et pouvoir s'entraîner à faire les mouvements de ski qui sont décrits par mon grand-père et qui aujourd'hui sont encore très largement enseignés dans les écoles de ski français.
On savait déjà à peu près tout du ski. Le matériel a beaucoup évolué, mais la technique, en fin de compte, on connaissait déjà tout.
Ben, on connaissait tout, à peu près. Et puis, il y a des techniques comme le Stemboggen. Du temps de mon grand-père, on disait qu'on avait un vélocipède et qu'on allait au cinématographe. Aujourd'hui, on dit qu'on a un vélo, qu'on va au ciné. Eh ben, on fait du stem. Mais avant, ça s'appelait le Stemboggen.
Petit manuel pratique du ski d'Alfred Coutet, réédité par Bruno, qui est donc notre invité cette semaine. Comme chaque semaine, Jean-Michel répond à vos questions, celles de Nathalie dans un instant. Ça va être l'occasion de lire avec la plus grande attention, lire seulement Jean-Michel, l'étiquette d'une bouteille de chartreuse. Ce sera après Raphaël et sa caravane.
Parce que j'en ai les larmes aux yeux, que nos mains ne tiennent plus ensemble. Moi aussi je tremble un peu. Que je ne vais plus attendre. Est-ce qu'on va reprendre la route? Est-ce que nous sommes proches de la nuit? Est-ce que ce monde a le vertige? Est-ce qu'on sera un jour puni? Je n'ai plus de chemise. C'est le bon Dieu qui nous fait. C'est le bon Dieu qui nous brise. Est-ce que rien ne peut arriver? Puisqu'il faut qu'il y ait une justice. Je suis né dans cette caravane. traîner dans cette cavale. Et nous partons, allez viens.
Raphaël sur France Bleu.
Passion montagne sur France Bleu.
Pour découvrir le patrimoine de nos massifs.
Cette émission, vous le rappelez, est à réécouter sur francebleu.fr et vous pouvez par ce biais-là, et on vous y invite chaque semaine, interroger Jean-Michel Asselin et lui poser toutes vos questions concernant la montagne ou les breuvages qu'on y fabrique. C'est le cas aujourd'hui puisque c'est une question de Nathalie de Gaillard qui voudrait savoir, Jean-Michel, si, comme le prétend son mari, la chartreuse est fabriquée en Espagne. Et attention, la réponse est importante parce qu'ils ont parié une semaine de tâches ménagères.
Oh là là.
On rigole pas avec
on
ça.
On rigole pas avec ça, donc je vais rassurer tout de suite Nathalie.
Alors c'est qui gagne?
Eh ben en fait, il a tort, mais pas complètement.
Ah,
alors là, ça va être compliqué pour le ménage. Il a tort. Pourquoi? Parce que la chartreuse est bien fabriquée, comme on le sait, à Voiron, dans l'Isère.
Mais d'autant que je ne sais même pas s'ils vont pas déménager les rentres de guillemets, les échelles, quelque voilà. chose comme ça, il me semble. Hein.
Alors c'est fabriqué par des pères chartreux, on le sait. Pourquoi l'Espagne est évoquée? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a eu une loi qui a été votée en 1903, en avril 1903, sur les congrégations religieuses et qui ont fait que les frères chartreux, les pères chartreux, excusez-moi, ont été tout simplement expulsés de leur monastère et qu'ils se sont retrouvés en Espagne, à Tarragone. C'est en Catalogne. Et là, bien sûr, ils avaient perdu la marque de ce qu'on appelait la chartreuse. Et ils ont, en Espagne, fabriqué une nouvelle liqueur. La liqueur des pères chartreux fabriquée à Tarragone, tout simplement. Liqueur fabriquée à Tarragone par les pères chartreux. Ça a été le nom de leur nouvelle appellation. Pendant des années, jusqu'en 1930, et même au-delà, il y a eu à Tarragone une fabrication de chartreuse. Et il faut savoir que ces étiquettes chartreuses fabriquées en Espagne à Tarragone sont aujourd'hui très prisées par les collectionneurs, etc., qui rachètent encore cette fameuse liqueur donc fabriquée en Espagne par les pères chartreux. Donc cette fameuse chartreuse qui peut être verte, jaune, etc., eh bien, on peut rassurer le mari de Nathalie et Nathalie elle-même. Aujourd'hui, elle est bien iséroise, elle est bien alpine, elle est bien de chez nous, avec des plantes de chez nous.
Bon, on les laisse gérer tous les deux, du coup, leurs différents familiales. Qu'est-ce qu'on offre à Nathalie, ce joli livre-là?
Eh bien, on va offrir à Nathalie Le Servin Absolu, qui est un roman historique de Benoît Aymon, qui est paru aux éditions Guérin de Chamonix, on le rappelle.
Qui vont fêter leurs 20 ans bientôt avec un gros événement, on aura l'occasion d'y revenir.
Et c'est vraiment un livre très très sympathique qui raconte cette merveilleuse histoire du Servin qui a été conquis de haute lutte.
Bon, chaque semaine, on vous offre un joli livre si votre question est sélectionnée. On vous invite donc à interroger Jean-Michel en passant par francebleu.fr. Bruno Coutet, petit-fils de Coutet champion et notre invité. Votre grand-père, il avait une petite flasque de gnôle ou de chartreuse dans la poche avant les compétitions. À l'époque, ils avaient le droit.
Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait pas
le contrôle.
De contrôle antidopage, mais surtout, je crois qu'il n'y avait pas grand chose pour se doper.
Bah, à part les, oui, les gouttes maison, quand même.
Voilà, hein, Mais non, par contre, j'ai une anecdote assez savoureuse que j'ai retrouvée un jour dans un chasseur français des années 30. Un client de mon grand-père racontait l'ascension du Mont Blanc avec mon grand-père. Et à sa surprise, quand il est arrivé en haut du Mont Blanc, mon grand-père a sorti deux bouteilles de champagne du sac.
Ah oui.
Et ils ont sablé le champagne au sommet du Mont Blanc. Aujourd'hui, quand on sait que les gars qui partent en montagne, ils essayent d'avoir le minimum de poids pour leur performance, là, le grand-père, lui, il lésinait pas sur le poids.
Il lésinait pas sur le poids, puis il était rapide parce qu'il a eu le record d'ascension du Mont Blanc pendant très longtemps.
Exactement, oui. Il a pendant 65 ans détenu le record Chamonix, sommet du Mont Blanc, Chamonix, donc aller-retour, en un temps. Alors, j'ai un petit doute, il me semble que c'était 24 heures, et voilà, et le record a tenu 65 ans.
Bruno Coutet, notre invité, on va prendre le temps des frérots de la Vega, sélection musicale France Bleu, pour évoquer le petit manuel pratique de ski, édité initialement en 1930 par son grand-père et qui vient de ressortir.
Quand en ville le grain se lève, vent de nerf agité, que se ternissent les rêves dans ma réalité.
Je veux des balades sur la grève, oh, un peu d'humanité, un moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, un moins de béton, plus de rêve dans ma réalité. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés. Sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de sombre affût, les yeux rivés. Sur le rivage, oubliez ton lointain visage.
Je veux des larmes qui ne coupent pas, et moins de peine en 4x3. Un bonheur simple, mais à mon goût,
c'est un peu vrai, mais ça fait tout. Je veux plus de houle dans mon écume, et moins de foule dans mon bitume. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd.
Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Oh.
Alors, une planche de salut pour chevaucher mon vague à l'âme. Bel océan, brise talus pour sécher le sel de mes larmes.
Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oubliez ton lointain visage.
Les frérots de la Vega, dont on avait parlé d'ailleurs la semaine dernière, puisqu'ils étaient sur la scène du phare à Chambéry dans le cadre de Before Winter.
Passion Montagne sur France Bleu, l'invité.
Je vous le rappelle, Bruno Coutet, petit-fils de Coutet Champion. Alors, si on dit premier champion de France de ski, c'est un raccourci. Premier champion de France civil.
Ouais, en fait, les tout premiers championnats de France étaient militaires. C'était un certain lieutenant Allois qui a décroché le tout premier titre. Mais forcément, il n'y avait qu'une caserne ou une garnison de compétiteurs.
Bon, il en a empoché 3, 1909, 13 et 14, hein, si je me souviens bien. Mais on peut rappeler qu'auparavant, il était guide.
Alors, en fait, il était guide, mais il a commencé à... Enfin, sa renommée est venue de son titre, de son premier titre de champion de France. Donc, il avait 20 ans en 1909. Et c'est à peu près dans ces années-là, d'ailleurs, qu'il a fait son record de vitesse au Mont Blanc. Il s'est concentré sur sa carrière de skieur jusqu'en 14. Mmh. En 14, la Grande Guerre. Et ben là, il est rentré très malade de 14-18 parce qu'il était au front dans les tranchées. Et en rentrant, ben, il ne pouvait plus être à son meilleur niveau sur les skis. Donc là, ben, il s'est retapé. Il a été photographe-filmeur sur les glaciers de Chamonix. Et puis ensuite, il a enchaîné par une carrière de guide. Et il a plus de 40 premières à son actif dans les Alpes.
Oui, alors carrière de guide assez remarquable parce que c'est quelqu'un qui finalement va rompre un peu avec la tradition. Il va découvrir des rochers à l'extérieur. C'est un excellent grimpeur de rochers. Hein. Donc on va le voir, on va le retrouver du côté des Dolomites, même à Fontainebleau où il ira, hein, sur les fameux blocs de Fontainebleau. Donc c'est un novateur en quelque sorte. Coutet Champion.
Ouais, mon grand-père c'était alors à la fois un pédagogue, d'où le petit manuel pratique, oui, de ski. Et puis en 1909, avec son titre de champion de France, il a créé la première école de ski en France. Mais c'était aussi quelqu'un de visionnaire, et en fait, dans les c'était un des guides à quitter la vallée de Chamonix pour essayer d'autres parois. Donc effectivement, les Dolomites, les Tatras, le Rocher Saint-Julien, Buis-les-Baronnies, les Calanques, etc. Et il a ramené à cette époque-là l'escalade artificielle, c'est-à-dire le pitonnage qu'on n'avait pas dans les Alpes.
Et il a mis sur les skis Roger Frison-Roche.
Voilà, alors il a mis sur les skis James Coutet, qui a été champion du monde à 16 ans. Et dans le petit manuel de ski, il y a une photo où on le voit posé devant l'école de Mont-Roc avec tous les gosses. Mmh. Donc il emmenait les gosses le jeudi, c'était le jour de congé, sur les pentes de Chamonix pour leur apprendre à skier. Et il leur disait, un jour, peut-être c'est vous qui serez professeur de ski, on parlait pas de moniteur à l'époque, vous serez professeur de ski et vous apprendrez à skier aux touristes qui viendront et vous gagnerez votre vie comme ça. Sur cette photo, et parmi les petites têtes blondes sur la photo, il y a James Coutet, qui donc a été champion du monde à 16 ans. Mon grand-père a fait venir Frison-Roche à Chamonix et lui a appris le ski. Et quand Henri Cueno, ministre de la Jeunesse et des Sports, a rebondi sur l'école de ski de mon grand-père pour lancer les écoles de ski en France, mon grand-père a fermé son école pour laisser la place à l'ESF.
D'où ce petit manuel sur lequel on va revenir.
Alors les photos, puisque vous les évoquez, il y en a quelques-unes qui sont tout à fait remarquables. On prendra le temps d'en parler. On a d'abord Kate Bush qui nous attend dans un instant. Et puis la revue de presse avec vous, Jean-Michel.
France Bleu, je suis d'où je viens, Faustine Bollard.
C'est un immense réalisateur qui a accepté de partager avec vous ses souvenirs à l'occasion de la sortie du film 1 plus 1. Claude Lelouch passe une heure avec vous et on va dérouler ensemble le film de sa vie.
Je suis d'où je viens. Aujourd'hui, de 13h à 14h sur France Bleu.
France Bleu.
France Bleu présente Forever Gentleman on Tour.
Comme à Vegas, smoking, paillettes et swing d'enfer. Forever Gentleman on Tour. Les plus grands standards interprétés par nos gentlemen crooners. Rock Voisine, Corneille et Garou. Forever Gentleman on Tour. En tournée dès janvier 2016 dans toute la France et le 14 février au Zénith de Paris pour une soirée formidable.
Un événement France Bleu.
Toutes les infos sur francebleu.fr.
France Bleu.
How could you leave me when I needed to possess you?
On en parlait avec Bruno Coutet. Quand on réédite le petit manuel pratique de ski, on a conscience qu'il y a des vieilles valeurs sûres. Et c'est le cas de Kate Bush aussi.
Exactement.
Sélection musicale France Bleu.
Passion montagne sur France Bleu.
Jean-Michel Asselin.
Christophe Garnier.
Alors Jean-Michel, chaque semaine, vous fouillez pour nous dans les kiosques en quête de quelques nouveautés à propos de montagne.
Oui. Vous savez, c'est un peu le, bah oui, les valeurs sûres justement. On en parle beaucoup. Et les valeurs sûres, c'est un numéro de Grimpé. Alors Grimpé, c'est, vous savez, le magazine de l'escalade, hein, bien connu. Et justement, ils se sont penchés sur 30 ans d'évolution du haut niveau en escalade. 30 ans d'évolution, ça veut dire comment on est passé de ces cotations un peu mythiques, vous savez, que sont le 8, le 9, voire, alors avec des finesses, hein, 8B+.
Ouais, maintenant, il y a les plus aussi, ouais.
Plus et tout ça, jusqu'au 9B+. Et alors, comme ça, c'est l'occasion de revisiter une galerie de personnages. Alors, évidemment, on trouve des Patrick Béraud, des Patrick Edlinger, des gens peut-être un peu moins médiatiques, comme Didier Raboutou, etc. Robin Ebersfield, Lynn Hill, des gens qui nous ont quand même fait rêver quand on était jeunes, puis qu'on grattait comme ça le rocher.
Mais vous l'êtes toujours.
Mais, bien sûr. Et je trouve que c'est très intéressant, finalement, de voir comment il y a une continuité entre les jeunes générations, les Chris Sharma, etc., les David Lama, tous ces gens qui grimpent à très haut niveau aujourd'hui, qui sont des grimpeurs exceptionnels et qui ont puisé dans les exploits des anciens quelque chose, une sorte de continuité de passion. Et c'est ça qui est intéressant. Finalement, peu importe la cotation, c'est encore une fois, on le voit bien dans ce magazine-là, la passion qui les a guidés, qui les anime et qui leur fait consacrer énormément de temps, énormément d'énergie à cette belle chose qui est tout simplement de grimper sur du rocher.
30 ans d'évolution de la grimpe dans Grimper.
Dans Grimper, avec énormément, encore une fois, de portraits.
Et allez, juste un petit clin d'œil pour un magazine un peu plus discret, c'est son 50e numéro qui sera en kiosque à partir de jeudi, ça s'appelle Ski de fond, et c'est un petit focus sur toutes les activités nordiques et leur évolution également, matériel, territoire, bilan des compétitions, entre autres, voilà, Ski de fond numéro 50 à venir.
Et puis moi, je vais faire un cadeau à notre invité, c'est le Skieur Racing, c'est un hors-série du magazine Skieur Magazine, et c'est donc consacré vraiment, alors là, à la compétition pure et dure, avec des portraits de champions, etc.
Bruno, tant qu'on y est, là, votre petit manuel pratique de ski, il a été reçu comment dans la presse d'une façon générale ?
Ben, en fait, c'est tout frais, donc je n'ai pas encore tous les retours. Par contre, tous les gens qui l'ont eu entre les mains ont été très agréablement surpris par d'abord la qualité, puisque c'est à l'intérieur, c'est quand même un papier en 170 grammes, donc c'est un beau papier. Et puis, il fallait ça pour les vieilles images qui ont été entièrement restaurées, des images qui datent de 1909 jusqu'à milieu des années 30. Donc, plutôt
bon accueil.
Un bon accueil. Oui.
Bon, je vous le confirme, c'est aussi pour ça qu'on vous a invité.
Merci beaucoup.
Dans un petit instant après, Vianney. Autre sélection musicale France Bleu, plus récente que le Kate Bush dont on parlait tout à l'heure. Après Vianney, la tradition, ça a du bon. Nous allons suivre Alain Salomon pour choisir cette saison le sapin de Noël. Il nous emmène pour cela dans le nord du Vercors, chez un producteur de sapins naturels.
On s'en va sur des chemins différents, toi et moi. Mais qu'est-ce qui nous prend ? On y croit. Si le ciel est menaçant, je perçois un soleil levant. Sentir un peu con, on n'a pas le bagage qu'il nous faut. Ça, je ne sais pas, mais je t'aime trop. Si tu tombes, je ne t'en veux pas. Dans ton monde, tu m'emporteras. Si je me trompe, on est bien comme ça. Oh, 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 on est bien comme ça. Oh. Des ampoules et des cailloux dans les choses tant qu'on tient debout. On s'en bat la distance et puis tout ça, ça fait peut-être mal, mais rien n'est idéal. Si tu tombes, je ne t'en veux pas. Dans ton monde, tu m'emporteras. Si je me trompe,
on est bien comme ça.
Avec Passion Montagne sur France Bleu, faites le plein d'oxygène.
Rendez-vous reportage dans Passion Montagne. À l'approche des fêtes, nous avons voulu en savoir un peu plus sur la culture des sapins de Noël qui sont déjà ou qui vont arriver dans vos chez vous prochainement. Alain Salomon est donc allé à la rencontre de Pascal Coimbelé. Il est installé dans le nord du Vercors où sur un hectare, il cultive environ 10 000 arbres. Alors ça fait pas de lui l'un des plus gros producteurs de sapins de Noël, hein, loin s'en faut, mais il travaille seul. Et pour lui, qui est éleveur, c'est surtout un complément d'activité. C'est donc au milieu des sapins qu'on retrouve Alain Salomon et Pascal Coimbelé.
Bonjour Pascal.
Bonjour.
On vous sent dans votre élément là, entre tous ces sapins.
Oui, tout à fait. Ouais.
Ça fait quoi, 20 ans maintenant que
20 ans, ouais, voilà,
vous produisez des sapins de Noël?
Tout à fait, je produis des sapins de Noël, oui, qu'on vend au marché des producteurs à Grenoble.
Ouais. Petite production, parce que là, il y a quoi, un hectare?
Oui, un hectare à peu près, voilà, oui, tout à fait. J'ai une petite production que je fais tout en vente directe.
Alors, moi, je suis assez surpris parce que j'ai lu que le sapin de Noël n'aimait pas forcément le calcaire. Et ici, on est en Vercors. Vous êtes un des rares producteurs en Vercors, on peut le dire. Ça pousse quand même, en tout cas.
Oui,
regarde ce qu'il y a autour de moi, il y en a.
Tout à fait, ça pousse, oui, oui. Simplement, il y a certaines variétés qui ne poussent pas chez nous. C'est vrai que le Labies nobilis ne pousse pas très mal sur le Vercors parce que c'est un arbre qui n'aime absolument pas le calcaire.
D'accord, mais ce n'est pas la variété la plus fréquente. En général, l'essence de sapin, c'est quoi? C'est le Nordman ou l'épicéa?
Voilà, en principe, c'est le Nordman, l'épicéa, c'est les deux principaux arbres du marché de Noël, quoi.
Bon, alors, qu'est-ce qu'on a ici? On en a des grands, on en a qui sont légèrement bleutés. C'est un Nordman, celui-ci?
Non, c'est un épicéa pungens. Alors, c'est une variété d'épicéa qui il est bleuté. L'aiguille tient mieux que l'épicéa normal et il a une très bonne odeur, par seul inconvénient, c'est qu'il pique un peu.
Ouais, mais l'odeur, donc, ça, c'est important.
Mais l'odeur, c'est important, voilà, tout à fait.
Et ça sent?
Ça sent, ouais. Dès qu'on touche, ouais, ça sent.
Ah ouais. C'est déjà un peu la magie de Noël, ça.
L'avantage par rapport au Norman, c'est que le Norman, lui, ne sent pas. Enfin, ou très peu.
C'est un travail de patience quand on est producteur de sapins de Noël. Parce que comment ça se passe lorsque le plant arrive? Je ne sais pas où vous les cherchez, d'ailleurs.
Eh bien, on les fait venir, bien souvent, ils viennent du Danemark ou d'ailleurs, hein, à la base.
Là, il y en a des tout petits là-bas, tout petits, petits,
voilà,
petits.
Voilà, les tout petits qui ont déjà, c'est des arbres qui ont déjà 4 ans, quoi.
Ça
a déjà 4 ans que je les ai plantés. Et c'est des plants des 2 plus 2, ce qu'on appelle 2 ans de semis, 2 ans de repiquage. Donc c'est des arbres qui ont déjà 8 ans.
Mais ça veut dire qu'avant qu'un arbre mesure 1m50, elle est à la louche 1m, 1m50, il faut attendre combien?
Il faut pas loin 1m50, il faut une dizaine d'années chez nous.
Que ce soit un épicéa ou un Nordman?
Alors épicéa, on va dire 8-9 ans, mais Nordman, oui, il faut bien une dizaine d'années. Alors après, c'est vrai que le Nordman est un arbre qui pousse très vite. C'est pour ça que bien souvent les Normans sont très touffus du pied et un peu élancés de la pointe, parce qu'ils ont du mal à démarrer, ils sont longs à s'implanter, et après c'est vrai qu'ils partent un peu en pointe.
Vous les aidez quand même à pousser, vous les taillez?
Un petit peu, certains. On évite au maximum, mais c'est vrai qu'il y a certains arbres, on est obligé de tailler un peu pour leur donner une jolie forme.
Donc, votre boulot, Pascal, mis à part les planter, c'est quoi? C'est juste de les regarder pousser?
Oui, presque.
Si c'était si simple,
voilà, oui.
Vous les avez plantés en rangée?
Voilà, tout à fait. Je les plante en rangée, donc avec une machine. C'est une vieille machine à planter les poireaux que j'ai transformée.
Ouais. Ça marche bien,
visiblement. Oui, voilà, oui, tout à fait. Et du coup, je les plante à la machine. Alors bon, en amont, il faut préparer le sol. Il faut, comme là, après, une fois, quand vous voyez les grands qui sont là, ils vont être coupés, il faut arracher toutes les souches, dessoucher, labourer, préparer la terre. Et puis après, c'est parti à la planteuse à poireaux et on replante.
Et on désherbe aussi.
Et on désherbe. Alors moi, en désherbage, je désherbe très peu, parce que j'ai une race de moutons, des moutons Shropshire. Alors, je ne sais pas si la prononciation est exacte.
Mais... Shropshire.
Voilà. Avec l'accent,
avec l'accent du Vercors. Ouais.
Et donc, c'est eux qui désherbent en partie toute ma production. Quoi. Et
ils ne s'attaquent jamais aux Nordman ou aux épicéas?
Non, en principe, ils ne touchent pas les arbres. Quoi.
Pascal, on est ici à Montaut. Il y a un climat qui est relativement frais. Un peu d'humidité aussi, ça c'est important pour les sapins de Noël.
Voilà, oui, tout à fait. C'est des arbres qui aiment l'humidité, quoi. C'est pas des arbres qui aiment pousser en plein soleil, en pleine chaleur. Mm-hmm. En plus, l'avantage, c'est que nous, Montaut, on est versant nord du Vercors, donc c'est toujours un peu plus froid que...
Il paraît que quand le terrain est peu fertile, du coup la croissance est plus lente et ils sont plus touffus.
Oui et non. Parce que c'est sûr qu'ils vont pousser moins vite, mais du coup ils seront moins garnis aussi. Et l'arbre sera plus maigrichon.
Donc c'est quoi? C'est la taille, finalement?
Il y a la taille, et puis après, ça vient, je pense, surtout de l'altitude, l'exposition des terrains, et puis la provenance des plants.
Faire pousser des sapins de Noël en plaine, c'est à peine possible?
Si, ça pousse, mais simplement, au bout de quelques années, c'est tous des arbres qui partent en pointe, qui poussent très vite. Le terrain est plus fertile en plaine qu'en montagne. Pour du gros arbre, ils ont moins facilité d'avoir des beaux arbres. Quoi.
Donc pour avoir un bel arbre, il faut qu'il vienne de la montagne.
Voilà, on va dire ça comme ça. Il faut bien qu'on ait un peu un avantage dans nos montagnes. Vous voyez, celui-ci, bah, par exemple, bah, j'ai la tronçonneuse, on va le couper et puis...
Allez.
Et bah, allez, je vais...
Désolé mon vieux. Hein.
Je vais prendre la machine, je mets en route et puis...
Ouais, c'est du rapide, hein.
Voilà, oui. Il y a pas à faire longtemps, vas-y.
Ça, c'est sûr. Pascal Coimbelé, autrefois, dans les montagnes, il n'y avait pas de culture de sapin de Noël.
Non, c'est vrai que...
Aujourd'hui, ça fait partie du paysage.
Voilà, oui. Avant, c'est vrai que les gens allaient chercher leur sapin en forêt, mais c'est vrai que maintenant, c'est interdit.
On le rappelle.
Voilà, puni d'une forte amende, même. Et donc, bah maintenant, on a des cultures spécialisées de sapins, quoi.
Pascal Coimbelé, reportage d'Alain Salomon. Notez que Pascal Coimbelé fait partie de l'association française du sapin de Noël naturel, association qui garantit la qualité des sapins qu'il produit. Ces sapins, vous pouvez les retrouver samedi prochain sur le marché de Noël de Sassenage et tous les jours jusqu'au 24 décembre sur le marché de producteurs de sapins de Noël, boulevard Clémenceau à Grenoble. Puisqu'on a un sapin, qu'est-ce qu'on va mettre au pied de ce sapin, Jean-Michel ? Quelques suggestions de jolis livres ?
Alors moi, je propose tout à fait des jolis livres. Alors là, il y en a un qui est très, très beau. Et vous connaissez sûrement, donc, Bruno Coutet. C'est une production de Mario Colonel, digne héritier des Terras, entre autres, à Chamonix. Ça s'appelle Trek en Himalaya, les plus beaux itinéraires. Un très gros livre produit par Mario Colonel Édition avec Jocelyn Chavy, qui lui-même est un journaliste de talent, qui s'occupe de la destinée du magazine. Wider.
Gros, voilà. Et beau livre.
Très Himalaya.
Un livre qui vient de sortir aussi, très beau livre de photos, d'Amélie Rousselet, Les Demoiselles Aventurières. 10 000 km en combi, un voyage vertigineux. Elles sont parties à deux filles, plus une chienne, grimper en Norvège. Très joli bouquin. Et notez qu'Amélie Rousselet sera très prochainement invitée de cette émission.
Et puis moi, je veux parler également du livre de Philippe Rebreillant qui s'appelle Freeride, ski, snowboard, freerando, la sécurité, la technique, le matériel. C'est paru chez Glénat avec beaucoup, beaucoup de photos, de conseils techniques. Un très très gros travail, très joli et vraiment très bien illustré.
J'ai également Marc Turel aux éditions Slatkin, édition genevoise, qui vient de publier Frédéric et Dorly Marmillot, Carnet des Andes, le périple de ce couple dans les Andes entre 1938 et 1958. Là aussi, un très joli livre. Et puis un autre absolument magnifique. D'ailleurs, on recevra son auteur début janvier, Trésor d'architecture au cœur du parc national de la Vanoise. Christina Katinka Jankovescu est passionnée d'architecture de montagne. Les croquis, les petites aquarelles et les dessins qui sont dans ce livre sont absolument somptueuses. C'est aux éditions Glénat que vous retrouverez ce livre en coproduction avec le parc national de la Vanoise.
Et un dernier, le 9e degré de David Chambre, 150 ans d'escalade libre aux éditions du Mont Blanc, 305 pages, vraiment une valeur sûre pour tous les fanas d'escalade.
Alors on n'a pas reparlé du petit manuel pratique de ski. Mais on va y revenir, bien évidemment, puisque Bruno Coutet, qui vient de le rééditer, ce petit guide écrit par son grand-père, est notre invité. On le retrouve après Manao, la tribu de Dana.
Le vent souffle sur les plaines de la Bretagne armoricaine. Je jette un dernier regard sur ma femme, mon fils et mon domaine. Hakim, le fils du forgeron, est venu me chercher. Les druides ont décidé de mener le combat dans la vallée, là où tous nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles, se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de cimériens prête à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour de grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'elle puisse nous bénir. Après cette prière, avec mes frères sans faire état de zèle, les chefs nous ont donné à tous des gorges et d'hydromel. Pour le courage, pour pas qu'il y ait de faille, pour rester grand et fier quand nous serons dans la bataille. Car c'est la première fois pour moi que je pars au combat, et j'espère être digne de la tribu de Dana.
quelques incantations de druides et de magie. Toute la tribu, le glaive en main, courait vers l'ennemi. La lutte était terrible, je ne voyais que des ombres, tranchant l'ennemi qui revenait toujours en surnombre. Mes frères tombaient l'un après l'autre devant mon regard, sur le poids des âmes que possédaient tous les barbares. Des lances, des haches et des épées dans le jardin d'Éden, qui écoulaient du sang sur l'herbe verte de la plaine. Comme ces jours de peine où l'homme se traîne à la limite du règne, du mal et de la haine. Fallait-il continuer ce combat déjà perdu? Mais telle était la fierté de toute la tribu. La lutte a continué comme ça jusqu'au soleil couchant, de férocité extrême en plus d'acharnement. Fallait défendre la terre de nos ancêtres enterrés là, et pour toutes les lois de la tribu de Dana.
Manao, la tribu de Dana. Nous, on n'est pas dans la vallée, on est en montagne.
Patrimoine, activité, nouveauté, c'est Passion Montagne sur France Bleu.
Avec Bruno Coutet, je vous le rappelle, notre invité, petit-fils de Coutet champion, trois fois champion de France de ski et surtout grand pratiquant de la montagne. Et donc, vous rééditez son petit manuel pratique de ski. Alors, si on a évoqué tout à l'heure la version originale, là, c'était vraiment que du texte. Vous l'avez sérieusement agrémenté. Je parlais en début d'émission de ces skis qui n'en finissaient plus d'être longs. Aujourd'hui, les skis, on les choisit. Globalement, les gamins qui débutent, ils ont les skis au menton. Là, je pense que bras tendu, ils touchaient pas la pointe des skis.
Ouais, c'est fort possible.
Il y a des photos qui sont énormes, là.
Exactement, ouais. Et puis en plus, on parle même pas du poids non plus des skis.
Ouais. Mais des trouvailles, parce qu'il avait inventé des fixations, votre grand-père.
Effectivement, avec un de ses frères, un frère aîné, il avait inventé une fixation. D'ailleurs, je pense que... Enfin, moi, j'ai connu des fixations de ski de fond qui se sont assez fortement inspirées, ouais. En améliorant, bien sûr, le principe. Et ces fixations, elles ont équipé très longtemps les chasseurs alpins.
Alors, il y avait une nécessité, hein, ce livre, de le changer et de format et de l'enrichir un peu, parce que le premier, il rentrait vraiment dans la poche du pantalon. C'était compliqué à vendre aujourd'hui, puis c'était très austère.
Bah oui, parce que en 1932, vous imaginez bien que déjà c'était pas un éditeur qui l'a produit ce livre, c'est mon grand-père avec ses propres deniers. Donc il a fait au plus juste parce que l'imprimerie à l'époque devait coûter très cher si on voulait avoir de la photo, et à mon avis encore plus si on voulait avoir de la photo couleur. Alors effectivement, moi j'ai réédité ce petit manuel pour d'abord une raison très importante, c'est que le texte ne soit pas perdu, parce que il doit en rester quelques exemplaires sur la planète. Et une fois que ces exemplaires auront disparu, le texte aura disparu. Donc l'objet de cette édition, c'était aussi de faire un dépôt légal à la Bibliothèque nationale pour la conservation du texte. Et puis donc j'en ai profité pour enrichir l'édition par des photos, parce que au fil des années, j'ai glané des photos où on voit mon grand-père enseigner ce qu'il explique. La conversion, par exemple, on le voit avec une cliente en train de lui expliquer comment on fait la conversion. Et puis, pour que le public qui découvre, redécouvre mon grand-père et une vision du personnage plus complète, eh bien, je l'ai enrichi du texte hommage que Roger Frison Roche a écrit et prononcé sur le parvis de l'église de Chamonix pour la sépulture de mon grand-père. Et donc, il retrace tous les grands traits de sa carrière, ce qui permet aux gens de comprendre aussi pourquoi ce petit manuel pratique de ski.
Alors, le texte est intégral, bien évidemment. Voici un extrait. Écoutez bien la leçon de ski de Jean-Michel Asselin.
Sauter sur place de pied ferme, c'est la leçon 41. Alors les genoux et les pieds étant très serrés, faire des sauts en hauteur. Lever le plus possible les genoux, garder les skis horizontaux. Commencer par de petits sauts très souples, puis chercher à s'élever aussi haut que possible. Quand le mouvement est bien acquis, sauter en faisant un quart, puis un demi-tour en s'aidant d'une rotation du bassin et des épaules. Pour cela, les débutants prennent la position suivante. L'une des épaules regarde les pointes des skis, l'autre les talons. S'accroupir pour prendre son élan, s'élever en exécutant le demi-tour avec les pieds. Pas beau ça ?
Et toutes les techniques de ski sont explicitées comme ça, avec autant de détails.
Oui, alors, ce qui est très marrant, c'est qu'on vous donne une technique, on vous donne les exercices qu'il faut, qu'il convient de faire pour la mettre en œuvre. Et puis, alors, encore une fois, les photos, il y a des photos succulentes où l'on voit une jeune femme qui est là, qui s'exerce à faire une conversion. Ouais, c'est vraiment, c'est très, très, très bien.
Vous skiez, vous, hein, Bruno?
Vous avez peut-être vu, oui. Vous pourrez voir que la première page du bouquin commence par un article du Dauphiné Libéré, oui, me concernant.
À Valoir,
qui dit Bruno Coutet, champion en herbe sur les pistes de ski de la Cétase, 15 mois, Bruno Coutet est le petit-fils de l'ancien champion de ski Alfred Coutet, etc. etc. Et donc, à 15 mois, j'étais.
Vous étiez champion, mais aujourd'hui.
Alors, forcément, j'ai pratiqué énormément de ski. Étant jeune, je pratique encore le ski, mais j'ai pas suivi, comme le dit l'article, les traces de mon grand-père, puisque j'ai suivi une autre voie qui est le domaine artistique.
Bruno Coutet, notre invité, vous restez avec nous s'il vous plaît jusqu'à la fin de 7h. On va allumer la télé dans un instant, enfin, comme chaque semaine, c'est Jean-Michel Asselin qui s'en charge.
Passez votre week-end avec les Chevaliers du Fiel sur France Bleu.
Bonjour tout le monde et bienvenue.
Le fou rire du week-end, c'est le Chevalier Show.
Pourquoi tu me fais toujours des carottes à manger? Et la femme me dit, tant que tu baiseras comme un lapin, tu mangeras comme un lapin.
Aujourd'hui à 12h30, c'est le Chevalier Show avec les Chevaliers du Fiel sur France Bleu.
France Bleu.
France Bleu présente la fête de la Saint-Patrick et de la Bretagne 2016. La tournée anniversaire.
Avec Alan Steven, Trian, le Baguette de l'Ambiwe et toujours les Irlandais du Celtic Dances.
La fête de la Saint-Patrick et de la Bretagne.
Près de 3 heures de Celtic Show. Plus de 60 artistes sur scène. Retrouvez-nous samedi 12 mars à Paris à 16h et à 20h au Palais des Congrès.
Un spectacle présenté par Patrick Poivre d'Arvor. Puis en tournée dans toute la France avec France Bleu. Toutes les infos sur francebleu.fr.
Et vive la Bretagne. France Bleu, votre meilleur partenaire emploi et formation.
Vous cherchez un emploi?
Vous voulez suivre une formation? Déposer un CV?
France Bleu et Région Job vous offrent les meilleures opportunités dans votre région.
30 000 offres d'emploi, des formations, les actus de l'emploi à retrouver sur francebleu.fr.
L'emploi sur francebleu.fr, rubrique emploi.
Jean-Michel Asselin, si vous le connaissez, vous savez qu'il ne se promène jamais sans son programme télé.
Oh bah non.
Qu'est-ce que vous nous avez trouvé pour cette semaine?
Eh bien, on en avait parlé, vous savez, c'est Vercors TV. Alors, c'est notre petite web TV associative. Petite, pourquoi je dis ça? Non, non. Grande TV, web associative, qu'on aime bien parce qu'ils font des choses très intéressantes. Et là,
n'hésitez pas à adhérer, hein, c'est une association. Oui. Et plus ils auront d'adhérents, plus ils auront moyens pour continuer leur joli travail. Voilà.
Centrale villageoise en Vercors. Bah, ça, c'est un sujet qu'ils ont tourné. C'est dans le cadre du développement des centrales villageoises menées par Rhône-Alpes Énergie Environnement. Donc, 4 projets photovoltaïques qui sont en cours sur le parc naturel régional du Vercors. Eh bien, c'est intéressant. Ce sont des démarches citoyennes pour une production locale d'énergie renouvelable, hein, dans cette ambiance de la COP21. Pourquoi ne pas aller, justement, regarder ce sujet? Vous faites Vercors TV et sur le net, et vous allez tout de suite trouver facilement à regarder les beaux sujets que nous concocte les gens du Vercors.
Tant que vous êtes sur Internet, il y a un film qui vient de sortir. Kevin Rolland, médaillé olympique, sort régulièrement des petites vidéos, là, un petit court-métrage de 5 minutes, avec entre autres Julien Régnier, qui était un des inventeurs du ce qu'on appelle le freestyle backcountry. Il y a une apparition de Julien Liseroux en cascadeur absolument magnifique, Brice Roger, il y a le Bob de Loïc Kostergue. Un film à mourir de rire, c'est très 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 spectaculaire, c'est vraiment du gros ski, c'est pour rire. Entre autres, ils vont skier sur la piste de Bob à La Plagne, et donc ça s'appelle Fast Forward, vous trouvez ça sur Internet, vous tapez Kevin Rolland et vous pouvez le voir, ce film magnifique.
Alfred Coutet, il n'y a jamais eu de film là-dessus?
Alors si, j'en ai vu un pour les 101 ans du ski, ouais, que la municipalité de Chamonix avait fait, alors je ne sais plus en quelle année, ça remonte à bien plus de 15 ans.
Et donc
il y avait un petit film où on voyait mon grand-père skier.
Voilà. Bon, ça va être compliqué de vous le montrer à la radio, mais peut-être un jour il sera en ligne. Voici Lady Antebellum, et puis nous reviendrons avec Bruno Coutet encore sur ce petit guide pratique du ski, et puis pas mal d'actu aussi à vous signaler pour cette fin de semaine. Merci d'avoir choisi France Bleu.
Reaching for the phone, 'cause I can't.
Bellum.
Passion montagne sur France Bleu.
Pour de belles randos dans nos massifs.
Encore un mot, Bruno Coutet, notre invité qui vient de republier, rééditer le petit manuel pratique de ski de son grand-père, Alfred, Coutet champion donc. Petit ouvrage qu'on trouve où, c'est quand même un détail important.
Alors, on le trouve sur les sites fnac.com et decitre.fr. Ensuite, il va petit à petit arriver dans les librairies.
Vite, Noël approche.
Voilà. Mais si votre libraire l'a pas, il pourra toujours vous le commander. Et puis, on le trouve également à la Maison de la Mémoire et du Patrimoine à Chamonix.
Vous le vendez la bagatelle de 12,90 €. C'est votre maison d'édition.
Oui.
Qui s'appelle ?
Qui s'appelle Arthur R. Édition. Drôle de nom, mais R, c'est Rimbaud.
Petit coin de paradis ?
Un petit coin de paradis.
Allez, alors traditionnellement, dans cette émission, on demande à nos invités, avant de se quitter, de nous faire partager ce qui, à leurs yeux, ou à leur cœur, est un petit coin de paradis.
Eh bien, le petit coin de paradis, pour moi, c'est notre planète, qui malheureusement va pas très bien, dans beaucoup de domaines. On va faire un petit hommage rapide aux victimes du 13 novembre dernier, mais aussi à celles du mois de janvier, presque un an, l'année dernière. Et donc, mon petit coin de paradis, c'est ma petite planète bleue. J'en ai un de cœur aujourd'hui, c'est le sommet du Mont Blanc, pour cause. Et puis, le petit coin de paradis, vraiment, celui qui est peut-être qui prend le plus de place, ce sont mes enfants.
Ah, et là, pour l'instant, c'est votre téléphone. Voilà, ah, on entend Bruno Coutet à la radio, alors on l'appelle pour lui dire « Ouais, c'était bon, ça a été super
ouais. !» Exactement.
Mais là, vous êtes fait raccrocher au nez, hein, désolé.
Je suis désolé, je pensais l'avoir.
Non, mais c'est pas grave, on en a tous un et ça nous arrive à tous. Donc, ouais, effectivement, voilà, comme à la maison, quoi, le sommet du Mont Blanc.
Voilà, comme à la maison, puis quand je suis avec mes enfants, c'est le paradis.
Bon, merci beaucoup d'être venu, Bruno. On reste attentif à vos prochains projets.
Eh bien, merci beaucoup de m'avoir reçu. Et puis, très belle journée à tous les auditeurs et à toutes les auditrices de France Bleu.
Petit manuel pratique de ski. Et comme on le disait au début, si le matériel a beaucoup évolué, côté technique, vous retrouverez à peu près tout ce qu'on pratique aujourd'hui à ski. Jean-Mi, un gros rendez-vous là, cette semaine pour les 20 ans des éditions Guérin.
Oui, un gros rendez-vous puisque le vendredi 11 décembre à 20h à l'espace Malraux à Chambéry, il y aura tout un moment de lecture et une rencontre, une table ronde avec Jean-Christophe Ruffin, Yann Kefelec, Sylvain Tesson. Ce sera animé par Guy Chaumeroy, que vous connaissez bien. Et bien sûr, on parlera de l'ouvrage « Cent alpinistes » qu'ont sorti les éditions Guérin pour fêter ces 20 ans de beau travail au service de la littérature.
Et autour de ça, notez que toute la semaine prochaine, il y aura aussi plein d'animations pour les enfants dans le bassin chambérien autour des livres et de la montagne. Ça commence mardi et jusqu'au samedi 12.
Voilà, exactement. Il y aura des ateliers d'écriture avec Maxence Fermine, vous savez, Neige, etc.
Des contes, de la lecture, enfin voilà, plein de choses. Vendredi 11, c'est la journée internationale de la montagne. Le thème, c'est l'agriculture de montagne cette année. Dans ce cadre-là, le parc de la Valoise vous donne rendez-vous à la maison de la réserve naturelle du plan de Tueda pour la projection d'un film des Lapiers, Le couloir du foin, suivi d'un débat, puis des dégustations, des expositions de photos, entre autres. Les trophées Mer Montagne au Corbier, c'est du 18 au 21 janvier, mais Éric Loiseau propose un passeport trophée Mer Montagne, c'est-à-dire si votre projet d'aventure ou de périple est retenu, eh bien vous participerez au trophée, vous côtoierez tous les plus grands champions, puis surtout les possibilités de vous faire financer.
Et on salue Franck Camas qui a eu un accident récemment, malheureusement, et qui était un des habitués du trophée Mer Montagne. J'espère qu'il sera avec nous.
Il était prévu cette année, je pense que cette année il y sera pas quand même, compte tenu de l'état de sa blessure, mais il vise tout de même la Coupe de l'Amérique. Hein. Je crois qu'il a fait une croix sur les Jeux Olympiques. Et puis, juste un mot aussi à propos de l'ANENA, l'Association Nationale de l'Étude de la Neige et des Avalanches, qui est en grosse difficulté financière. Ils font un travail remarquable sur la prévention des avalanches. Comme c'est une association, le seul moyen de les aider, c'est de prendre une adhésion. Voilà, si vous pouvez le faire, surtout si vous pratiquez à la montagne, leur travail vous est utile au quotidien et c'est important qu'ils puissent continuer. Et ben voilà, c'est à peu près tout pour cette fois. On va se mettre un petit jingle et vous raconter le programme de la semaine prochaine. Et ce sera une spéciale Népal la semaine prochaine, Jean-Michel, spéciale puisque Népal. Vous nous quittez.
Voilà, je vous quitte et je vais me promener du côté des Annapurna. Et puis surtout, je vais aller rencontrer une fois de plus tous ces gens qui sont, je peux vous garantir, bien dans des gros ennuis. Hein. C'est pas que le tremblement de terre, c'est également le blocus de l'Inde qui leur supprime le gaz, le pétrole et toutes les matières premières.
Bon, émission spéciale donc dimanche prochain avec un reportage qui nous replongera un peu dans les années de Couté Champion, puisque nous irons aux forges Simon, aux Ouches. Depuis 1860, ils fabriquent du matériel de montagne. Tâchez d'ici là, toutes et tous, de passer une belle semaine dans la pente.
Et bonne montagne.